Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Christophe.
Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain.
Salut Christophe.
143 personnes sont mortes après l'attentat qui a frappé le Crocus City Hall, une salle de concert en banlieue de Moscou le 22 mars dernier. Revendiqué par le groupe terroriste État islamique au Khorassan, il a d'abord été attribué aux services ukrainiens par la Russie, ce que Kiev a évidemment démenti, avant que le président Vladimir Poutine l'impute officiellement à, je cite, « des islamistes radicaux ». Dans la nuit du 28 au 29 mars, dans un message célébrant les 10 ans de la proclamation d'un califat sur un territoire à cheval entre la Syrie et l'Irak par le dit groupe État islamique, un responsable de l'organisation a appelé les loups solitaires à cibler spécifiquement les chrétiens et les juifs, en particulier en Europe, aux États-Unis, à Jérusalem et en Palestine. Et si Paris vient de relever son dispositif Vigipirate à son niveau maximal, le niveau urgence attentat, la menace n'a jamais vraiment disparu. Selon le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, l'État islamique est l'auteur des 8 dernières attentat déjoué en France. Il a dit « Nous déjouons beaucoup d'attentats, un tous les deux mois environ ». Alors pour commencer Alain, avant de parler des attentats, du retour de l'islamisme, si retour il y a, j'aimerais qu'on revienne sur cette organisation. On connaissait le groupe État islamique ou Daesh, mais c'est une branche de cette organisation qui a revendiqué l'attentat à Moscou. L'État islamique au Khorassan, qu'est-ce que c'est l'État islamique au Khorassan ?
Lorsque Daesh apparaît au Moyen-Orient, entre l'Irak et la Syrie, piloté par un Irakien, en 2013 à peu près, puis en 2014, Daesh va conquérir la ville de Mossoul et toute une partie du monde sunnite en Irak, puis la ville de Raqqa en Syrie. Et puis Daesh va, à ce moment-là, en fin 2014 ou en 2015, prononcer la création d'un État islamique. En effaçant la frontière entre l'Irak et la Syrie, ils se filment, ils font une vidéo célèbre. Ils disent « Ben voilà, nous avons vaincu, démoli les frontières du colonialisme européen et maintenant c'est l'État islamique et l'État islamique, il est amené à s'étendre. » Voilà, tout ça se passe entre 2014 et 2015. À ce moment-là, un autre mouvement islamiste, mais eux aussi sans doute des dissidents d'Al-Qaïda, mais actifs en Asie centrale, en Afghanistan et dans les autres pays d'Asie centrale, créent une branche État islamique au Khorassan. Alors c'était quoi le Khorassan ? C'était du temps de l'Empire perse, grosso modo, toute la partie de l'Asie centrale qui est actuellement découpée en plusieurs États, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, ça correspondait à peu près à cette portion de territoire du temps de l'Empire perse. Et donc ils ont repris cette rhétorique et c'est là qu'ils entendent eux aussi créer un État islamique qui aurait été, ou qui devait être le pendant de ce qui avait été créé au Moyen-Orient.
Parce qu'au Moyen-Orient, on a dit qu'il avait été vaincu, en tout cas militairement, en 2019, cet État islamique.
Exactement, absolument. Il est vaincu en 2019. Raqqa tombe, je crois, fin 2017. Mossoul, un petit peu avant. Il y a encore des batailles dans la vallée de l'Euphrate, dans toute la région frontalière entre la Syrie et l'Irak, où il y a d'ailleurs encore quelques 1000 combattants ici et là qui sont réfugiés avec leurs familles. Mais ce qui se passe, il y a une deuxième date à retenir, c'est 2021, l'été 2021. À ce moment-là, les États-Unis, Joe Biden retire les forces américaines, les 10 000 Américains qui restaient là, d'Afghanistan. Il le fait dans des conditions d'impréparation totale, pour la grande humiliation des États-Unis, parce que ça signe quand même une défaite de l'Occident dans cette histoire-là depuis 2001, les talibans prennent immédiatement le pouvoir. Alors ça avait été plus ou moins négocié, il faut dire les choses comme elles sont, du temps de l'administration Trump. Mais enfin, c'est Biden qui réalise ce retrait dans des conditions épouvantables. Les talibans prennent le pouvoir. Et à ce moment-là, les talibans sont très vite confrontés au fait qu'il y a des groupes islamistes, arabes ou non, ou venant d'Asie centrale aussi sur le territoire de l'Afghanistan. Et notamment l'État islamique qui s'est installé là et que visiblement l'Afghanistan n'arrive pas à contrôler, où en général les services de renseignement disent qu'il y a entre 2000 et 4000 combattants, mais surtout la base logistique pour des opérations à l'étranger, que ce soit celle de Russie ou d'autres, ou en Europe. Et donc, voyez, il y a comme ça une sorte de continuum qui part du Moyen-Orient pour arriver à l'Asie centrale.
L'État islamique et les talibans, arrêtez-moi si je me trompe, sont tous les deux de groupes plutôt sunnites, mais qui sont pourtant opposés. Qu'est-ce qui les différencie et qu'est-ce qui les oppose surtout ?
Ce qui les oppose, si vous voulez, c'est que ce sont deux versions de l'extrémisme sunnite, absolument. Alors la version encore plus radicale, c'est l'État islamique ou Al-Qaïda, qui est la matrice de l'État islamique. Alors qu'est-ce qui les oppose ? Eh bien, c'est cette idée que on ne contrôle pas un État, on ne déclare pas la victoire tant qu'on n'arrive pas à recréer l'Oumma, la communauté des croyants. Et donc, il y a, voilà, les talibans sont au pouvoir, mais ils négocient avec les pays occidentaux. Ils n'appliquent pas exactement la charia. Bon, on est entre extrémistes. C'est une bataille entre extrémistes. Et surtout, ils sont devenus les ennemis les plus farouches. Les ennemis, je veux dire, sur le plan militaire, en Afghanistan, où ils montent des opérations tous les mois contre les talibans. Et pas seulement contre les talibans, mais notamment contre les talibans. Ils sont devenus l'ennemi principal de l'Afghanistan. Parce que l'Afghanistan des talibans avait, dans la négociation qu'il y a eu avant le retrait américain, il y a eu une négociation qui se passe à Doha, au Qatar, entre les combattants talibans qui n'ont pas encore repris l'Afghanistan et les Américains qui veulent s'en aller. Et les Américains, du temps de l'administration Trump, disent « Écoutez, nous, la seule chose qui nous intéresse, si vous reprenez le pouvoir, c'est que vous contrôliez le pays, qu'il n'y ait plus de base de terroristes dans le pays. » Et c'est sur cette base que les Américains sont partis et que Biden a pu dire, comme avait fait Trump d'ailleurs, il n'y aura plus, les talibans nous ont promis qu'ils contrôleraient le territoire et il n'y aurait plus d'opérations terroristes. En fait, bon, les talibans ne sont pas capables de contrôler le territoire. Il y a des opérations terroristes. Le terrorisme islamiste n'a jamais abandonné, pas plus la Russie que le territoire de l'Europe de l'Ouest, que l'Asie centrale ou l'Afghanistan. Et on est confronté à nouveau, non pas à un regain, parce que ça n'a jamais vraiment cessé, mais l'intensité était peut-être moindre, mais du terrorisme islamiste.
Et d'autant que c'est un terrorisme qui frappait un peu loin de l'Occident. Il a frappé dernièrement en République démocratique du Congo, en Iran, en Turquie ces derniers mois. Ça ne s'est jamais arrêté, en fait, Jean-Marie. C'est peut-être notre attention qui a baissé, focalisée sur le front ukrainien et sur le front moyen-oriental.
Oui, parce que comme l'expliquait Alain tout à l'heure, nous étions persuadés que depuis la défaite de l'État islamique et depuis les bombardements qu'ils avaient subis, ils avaient été ramenés à la marginalité en quelque sorte. Et là, ils ressurgissent et ils ressurgissent en Russie. Vous avez expliqué tout à l'heure que le président Poutine avait dans un premier temps incriminé l'Ukraine, puis avait reconnu que c'était des islamistes qui avaient commis cet attentat. En fait, il continue à mêler les deux. C'est-à-dire que Poutine, dans ses toute récente déclaration, toute dernière déclaration, explique qu'en fait, l'État islamique a été financé par l'Ukraine. C'est comme ça qu'il retombe sur ses pieds, si j'ose dire.
Et il accuse les terroristes de vouloir retourner en Ukraine, voilà, après l'action à Moscou.
Absolument. Donc, pour bien montrer que c'est évidemment uniquement l'Ukraine qui est en cause et non pas la réalité. Or, la Russie a bel et bien été rattrapée par ce terrorisme islamiste. Il faut renvoyer évidemment au passé et au passif des relations entre la Russie et les islamistes, qui sont été quand même marqués par la guerre de Tchétchénie, qui a quand même été une boucherie effroyable, et par toute une série d'événements, notamment les bombardements russes en Syrie, qui visaient aussi l'État islamique. Donc il y a tout ce passif qui fait que la Russie était, et on l'avait oublié, et le système russe fait en sorte qu'on l'oublie, était la cible des islamistes. Alors le paradoxe étant que on peut pas faire un État plus militarisé que la Russie d'aujourd'hui, plus surveillé que la Russie d'aujourd'hui. C'est un régime qui est capable d'emprisonner plusieurs jours après des gens qui ont simplement dit qu'ils étaient contre la guerre en Ukraine, n'a pas été capable de bloquer 4 terroristes qui sont arrivés dans un lieu très connu, après les alertes qui avaient été données par les services occidentaux. Alerte des services occidentaux qui se sont révélés vrais et justes et que Vladimir Poutine avait dénoncé quelques jours avant l'attentat en parlant de chantage et en disant que tout ça c'était des manœuvres occidentales et que c'était destiné à faire chanter les dirigeants russes. On voit ce qu'il en était, évidemment. Et donc, en fait, la Russie est aussi en guerre, est aussi en tout cas ciblée par le terrorisme islamiste.
Elle est ciblée depuis longtemps par le terrorisme islamiste, mais pourquoi, selon vous, Alain, ils ont refrappé à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a une raison particulière à ce que l'État islamique au Khorassan cible Moscou ?
Dès le début du mois de mars, d'après les Américains, d'après les services occidentaux, mais je pense que les Russes l'ont dit aussi. Dès le 7 mars, il y a eu des arrestations parmi les Tadjiks travaillant en Russie. Il y a eu des arrestations pour tentative d'attentat contre une synagogue en Russie. Donc, au fond, la Russie a été assez souvent ciblée ces derniers temps par l'État islamique. Je ne saurais pas vous dire pourquoi maintenant. Le plus vraisemblable, d'après ce qu'on peut lire, le plus vraisemblable, c'est que ces Tadjiks ne venaient pas de l'extérieur, mais faisaient partie des 2 millions de Tadjiks qui travaillent en Russie. Hein, le Tadjikistan, c'est un petit pays enclavé, très pauvre, et donc il y a une émigration extrêmement forte pour aller travailler en Russie. C'est vraisemblablement là aussi que se passe la conversion ou la radicalisation à l'État islamique. Ce sont des hommes jeunes, sans leur famille, qui se retrouvent en général à la mosquée et qui finissent par entrer en contact avec des réseaux tadjiks qui, ou autres d'ailleurs, d'Asie centrale, qui sont de manière plus ou moins structurée liée à l'État islamique. Donc, je ne saurais pas vous dire pourquoi maintenant. Sinon, ça, il semble bien que ce soit des Tadjiks qui travaillaient en Russie. Ce sont des Tadjiks qui, on estime qu'ils ont été radicalisés en Russie. Et lorsqu'ils sont repartis, il y avait à peu près une dizaine de travailleurs Tadjiks qui étaient visés. Cet attentat a une particularité. C'est qu'on vit à l'époque TikTok. Et donc, ils ont filmé leur massacre. Ils ont filmé. Ils ont massacré les gens au fusil mitrailleur, à la mitraillette, si vous voulez, avec des kalachnikovs, on les voit très bien, tirant dans la foule, et ils ont mis le feu à une partie de la salle de concert, de cette immense salle de concert. Et ensuite, ils ont tué les gens, et on les voit qui tirent et qui tirent sur les gens qui sont au sol, sur des cadavres qui sont au sol. Et puis, ils s'enfuient, on en arrête 4, à vrai dire qui étaient plus proches de la frontière de Biélorussie que de celle de l'Ukraine.
Il faut rappeler qu'entre la Russie et la Biélorussie, il est très facile de passer parce qu'il n'y a pas de contrôle, les deux États étant tellement proches.
Mais il n'est pas exclu non plus qu'il soit passé par l'Ukraine il y a 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Il ne s'est pas du tout exclu par les services de renseignement occidentaux qu'il soit passé par l'Ukraine et que les Russes cherchent à exploiter cela. Ils chercheront à exploiter n'importe quel petit filon qui permettront de lier les Ukrainiens à cet attentat. Naturellement, les Ukrainiens ont démenti, on ne les voit pas très bien monter ce genre d'opération. Et ensuite, surtout, l'État islamique a revendiqué et a mis sur ces sites où les sites sur lesquels on peut voir cette revendication, des films du massacre. Et c'est là où les Russes ont changé de rhétorique. Ils se sont dit non, on n'est plus crédible à accuser l'Ukraine d'avoir monté cette opération ou d'avoir payé des Tadjiks et on doit reconnaître que c'est l'État islamique qui a fait cet attentat. Sinon, les Russes perdaient absolument toute crédibilité et notamment Vladimir Poutine dans son discours. Alors, il peut toujours essayer, comme le rappelait Jean-Marie tout à l'heure, de dire oui, mais ils ont été payés par l'Ukraine. Bon, ils ont été payés par l'Ukraine. Je ne sais pas s'il y a des preuves, s'il y a une fiche de paye ou une facture. Ça n'a pas grand sens de dire ça. Ils ont été payé par l'Ukraine. C'est le début d'une histoire hein, qui sera certainement reconstituée par beaucoup de gens en Europe, par beaucoup de services en Europe, et notamment ici, puisque nous allons avoir les Jeux Olympiques.
Oui, il faut rappeler que les services occidentaux, notamment américains, avaient donc prévenu les Russes qu'il y avait un risque d'attentats venant d'ailleurs de cette mouvance islamique. Exactement. Mais les mêmes continuent à alerter le reste de l'Europe. Mais après avoir alerté sur la Russie, ils alertent sur l'Europe elle-même. Et donc, en rappelant d'ailleurs que parmi les cibles de ce mouvement, il y a évidemment la France au premier rang, mais il y a aussi l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Donc il faut prendre ça évidemment très au sérieux. Et on comprend que, évidemment, il y a une certaine inquiétude qui soit palpable dans nos pays, y compris en France. Rien de tout ça n'était écrit d'ailleurs, parce que au départ, c'est vrai, il y a vraiment la marque de Poutine dans tout ce trajet. Parce que, rappelez-vous, le 11 septembre, au lendemain du 11 septembre, il y a une sorte d'unanimité qui se fait pour condamner ces attentats et pour se dire, ben voilà, la priorité désormais, c'est de lutter contre le terrorisme. Et donc, les Russes sont partie prenante de cette lutte contre le terrorisme. Alors, il en reste peut-être aujourd'hui des échanges d'informations entre services russes, par exemple, et services américains, mais avec une utilisation politique par Poutine qui est évidemment désastreuse, parce que non seulement il n'a pas tenu compte de ces avertissements, mais en même temps, il a dénoncé le chantage l'héritage des Occidentaux, ce qui est parfaitement absurde. Mais petit à petit, Poutine s'est éloigné de ce combat commun et donc a enfourché un combat qui est d'une toute autre nature, puisqu'il menace très directement à la fois l'intégrité de l'Union européenne et évidemment au premier rang l'Ukraine. Mais au point de départ, cette histoire n'était pas écrite comme cela. Au point de départ, on pouvait penser que dans la foulée du 11 septembre, il y aurait une sorte d'union sacrée qui a existé un temps et qui a été dissoute ensuite parce que Poutine a pris un tout autre chemin.
Laurence Nardon nous rappelle dans le dernier épisode de New Deal sorti ce mercredi que les canaux de communication ne sont pas rompus entre la Russie et les États-Unis et qu'il y a toujours entre services des échanges. D'ailleurs, ces échanges y prennent quelle forme? Quand on nous dit les États-Unis alertent la Russie sur le risque d'attentat, c'est très vague de dire que les États-Unis alertent sur le risque d'attentat. Est-ce qu'il y a des échanges d'informations particuliers? Est-ce qu'il y a des collaborations? Comment ça se passe, Alain?
On peut que spéculer, mais il y a plusieurs types d'échanges. En général, ce sont ce qu'on appelle des échanges d'ambiance, c'est-à-dire que les services américains, pas forcément la CIA, mais plutôt la NSA, qui procède aux écoutes, dit « nous avons capté des possibilités d'attentat ou une présence d'un commando de l'État islamique, quelque chose qui peut nous faire penser qu'il y a et qu'il vise la Russie en ce moment. Nous avons capté. » Et donc, après, on peut dire ça soit à son correspondant dans une capitale ou dans une autre, voire à Moscou même, puisque les relations diplomatiques ne sont pas rompues par aucune des deux parties. Il y a un ambassadeur russe à Washington, et puis il y a les Nations Unies qui servent aussi de relais de communication. Dans ces cas-là, vous avez le représentant des États-Unis qui parle au représentant toutes les semaines, représentant de la Russie au Conseil de sécurité. Donc vous avez une multitude de canaux possibles qui se recouvrent comme ça. Ce que les gens du renseignement disent, c'est que c'est pas immédiatement opérationnel. C'est nous avons capté. Nous avons capté quelque chose qui nous laisse penser qu'ils peuvent frapper en Russie. Ce sont ce type d'indications qu'on peut se transmettre entre services.
Et ensuite, vous faites fuiter dans la presse. Et donc, il y a des articles de journaux qui font état, justement, de ces menaces, qui font que tout le monde est vraiment dûment bien informé.
Dans quel but?
Dans le but d'alerter, justement, et de faire en sorte que, sous cette pression-là, les gouvernements prennent les précautions qu'ils doivent prendre.
Jean-Marie a parlé de l'union sacrée qu'il y a eu après le 11 septembre avec cette alliance de tous les pays occidentaux et de la Russie contre le terrorisme islamiste. On imagine que ça peut être très difficile à reconstituer dans le contexte de guerre en Ukraine. Est-ce que la Russie est capable actuellement de se battre contre le terrorisme islamiste avec les services dont elle dispose? Tout est concentré sur le front ukrainien, on imagine, non Alain?
Je pense que tout est concentré sur le front ukrainien. Vous avez cette immense machine de contrôle de la population civile mise en place par le régime de Vladimir Poutine. Mais ça date pas d'hier. C'est les Occidentaux qui découvrent ça. Ça date pas d'hier. Mais petit à petit, le régime de Poutine, très vite, dès après ce qu'on a appelé cette vague de démocratisation qu'on a appelé au début des années 2000 les révolutions oranges, dès ce moment-là, il commence à rogner sur les libertés. Et puis, lorsqu'il revient au pouvoir, il y a des élections législatives en 2011 où son parti est en difficulté. Il y a de gigantesques manifestations dans la rue. Des millions de Russes sont dans la rue pour protester contre la fraude électorale. Et là, de manière implacable et progressive, il soumet la Russie à un contrôle policier qui, de ce point de vue-là, rappelle l'époque soviétique, et peut-être même, dans l'époque soviétique, l'époque stalinienne. Imaginez que, entre 10 à 20 000 citoyens russes, parfaitement anonymes, parce qu'ils ont un jour au travail dit qu'ils étaient contre la guerre, parce qu'ils ont envoyé des textos, parce que sur Telegram ou sur une des plateformes sociales qu'apprécient les Russes particulièrement, ils ont critiqué cette opération, se retrouvent en prison. Pas pour des petites peines, pour des peines de 7 ans de prison. Imaginez qu'ils ont mis en prison des hommes comme Navalny, où le nom m'échappe du deuxième journaliste russe qui, après être rentré en Russie, avoir condamné la guerre, a été condamné, lui, à 27 ans de prison. Et donc, c'est un gigantesque univers carcéral et de contrôle policier de la population qui est en place et obsédé, parce que le chef est obsédé par une chose, montrer que la population russe soutient à fond cette opération de guerre, l'agression contre l'Ukraine. Donc, bien sûr qu'il y a un lien entre l'obsession ukrainienne de Vladimir Poutine et l'incapacité de ses services, qu'on tue ses services, à déjouer cet attentat. Non pas qu'on arrive à déjouer les attentats à 100%, ça n'existe pas, bien sûr. Mais en tout cas, le fait de mettre le FSB exclusivement au service de la répression des gens qui contestent la guerre en Ukraine n'a pas facilité les choses.
Jean-Marie, cet attentat qui a eu lieu la semaine dernière, est-ce que c'est quelque chose qui peut nuire à la domination de Poutine sur le système politique russe, ou est-ce qu'au contraire, il peut s'en servir, est-ce qu'il peut réussir à l'instrumentaliser? Est-ce que les Russes peuvent encore y croire?
Apparemment, les Russes le croient, puisqu'il a été réélu. Alors, je sais bien qu'il a été réélu dans des conditions très particulières, puisque le vote a été manifestement entaché de beaucoup de fraudes, mais enfin, il est investi malgré tout d'une nouvelle légitimité. Et ces événements-là sont plutôt de nature à ce que les sociologues observateurs américains avaient baptisé l'effet drapeau. Quand il y a des situations comme ça tendues, et notamment une agression caractérisée vis-à-vis d'un pays, comme ont été ces attentats, il y a aussi une sorte de repli autour de la personne du président, autour de l'exécutif. Donc il y a certainement aussi en Russie un effet drapeau. Alors je ne sais pas combien de temps ça durera, mais une fois que la guerre en Ukraine reprendra le dessus dans l'agenda des Russes, ça changera peut-être. Et surtout, ça peut changer s'ils décrètent une nouvelle mobilisation. C'est ça, en fait, qui pourrait nourrir une nouvelle phase critique dans l'opinion russe. Mais pour le moment, ce genre d'événement, non. Il est familier des choses. Regardez la Tchétchénie. Il avait quand même, maintenant, c'est avéré qu'il avait lui-même contribué à l'organisation de ces attentats qui lui ont permis de livrer la guerre en Tchétchénie. C'est quelque chose que l'opinion russe ne lui a jamais reproché, vraiment.
Ce qui a été frappant dans cette histoire, ça a été l'unanimité de tout le système médiatique, le système de propagande russe, au service de la soi-disant thèse ukrainienne. Il ne s'agit pas de détourner l'attention des gens de la guerre en Ukraine. Il ne s'agit pas de dire que la guerre en Ukraine n'est pas le seul problème de la Russie et la seule menace pour la Russie, avec une unanimité invraisemblable. Il semble que Poutine ait été assez déstabilisé sur le plan personnel. Il a mis près de 20 heures avant de parler. Et lorsqu'il a parlé, il n'a même pas cité le nom de l'État islamique, alors qu'il était déjà, semble-t-il, évident que c'était l'État islamique. Et ce que j'ai relevé, c'était que la propagandiste en chef du régime de Poutine, Margareta Simonian, qui dirige la chaîne Russia Today, qui dirige cette chaîne, laquelle est l'instrument de propagande, notamment à destination de l'extérieur du régime de Vladimir Poutine, a fait une déclaration invraisemblable en disant « Il est évident que c'est l'Ukraine, mais ces abrutis d'occidentaux vont croire la revendication. » La revendication, elle est plus que crédible, puisqu'elle diffuse même des vidéos qui ont été transmises par téléphone par les assassins.
Et puis elle a été faite sur le canal Télégramme de l'organisation.
C'est ça. Et elle qualifie la thèse de l'État islamique d'une sorte de bêtise pour ce public d'abrutis d'occidentaux.
Puisque vous parlez de système médiatique, je voudrais vous conseiller un film. Le film s'appelle L'affaire Abel Trem de Gabor Reis. C'est un réalisateur hongrois. C'est l'histoire d'un lycéen hongrois recalé au bac qui se retrouve au cœur d'un scandale politico-médiatique. Alors un film non sans défaut, mais avec une qualité non négligeable, celle de nous montrer les fractures de la Hongrie de Viktor Orban derrière le récit d'un emballement médiatique, ou comment le mensonge d'un jeune adulte, entre petite lâcheté et mauvaise foi journalistique, devient l'instrument de la propagande populiste. C'est en salle depuis cette semaine. Alain, vous avez votre chronique, vous, chaque jeudi, dans Le Monde et sur lemonde.fr, et cette semaine vous nous parlez des rapports entre Israël et Washington.
Voilà, je raconte les différents éléments qui manifestent depuis près d'une vingtaine d'années maintenant une relation entre les États-Unis et Israël qui s'est dégradée.
Et dans la foulée du film que vous nous recommandez, Christophe, il y a des mises à jour de plus en plus fréquentes et importantes de la corruption, du niveau de corruption qui existe en Hongrie autour d'Orban.
Mais nous nous repencherons sur la Hongrie dans Le Monde Devant Soi prochainement, surtout à l'approche des élections européennes. Jean-Marie, vous, chaque jeudi, c'est votre émission politique sur France 24, et cette semaine, vous nous parlez de finances et de déficit.
Et du déficit, absolument, et de ce qui est passé au lycée Ravel à Paris.
C'est aussi à retrouver sur Slate. Merci messieurs, et à la semaine prochaine.
Au revoir Christophe.
Au revoir Christophe.
Le Monde Devant Soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.